Le journal, bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une ce matin, après 13 jours de violence, un cessez-le-feu sous égide russe. Un cessez-le-feu qui entrera en vigueur tout à l'heure à la mi-journée dans le Haut-Karabakh. Les autres titres, Raphaël.
Sophie Petronin, désormais libre des interrogations, demeure sur les négociations avec ses ravisseurs maliens. L'ex-otage a notamment révélé hier qu'une autre otage, une Suissesse, avait été tuée par les djihadistes il y a un mois. Pas de lien établi pour le moment. Et puis à suivre, les tests Covid antigéniques. Bienvenue au moment où la situation sanitaire se dégrade en France. La droite déchirée après le renoncement de François Baroin pour la présidentielle 2022. Et puis Djokovic qualifié pour la finale de Roland-Garros dimanche. Il retrouvera un habitué, l'Espagnol Rafael Nadal.
Nadal, à 8h20, question ce matin à Sandra Régol, la secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts.
France Inter.
Un cessez-le-feu donc qui entrera en vigueur à la mi-journée aujourd'hui dans le Haut-Karabakh.
Un résultat d'un marathon diplomatique ces dernières heures à Moscou, sous égide russe. Les ministres arméniens et azerbaïdjanais des affaires étrangères se sont accordés pour cette trêve. Elle aura un but humanitaire, échange de prisonniers et de corps sont notamment prévus. Ce cessez-le-feu met un terme à 13 jours de violence. À Moscou, précision de Jean-Didier Revoin.
Les traits tirés, mais sans cacher une certaine satisfaction, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est exprimé brièvement au terme de négociations menées avec ses homologues arméniens et azerbaïdjanais. L'accord intervenu tard dans la nuit porte sur les points suivants. Un cessez-le-feu entrera en vigueur aujourd'hui à midi. Ces conditions seront définies ultérieurement. Enfin, les parties s'engagent à une résolution pacifique de leurs différends et à ne pas changer le format du processus de négociation. Cela signifie que le groupe de Minsk de l'OSCE, coprésidé par la Russie, les États-Unis et la France restent le principal médiateur international du conflit. Mais cet accord marque une avancée importante depuis la reprise des hostilités le 27 septembre dernier. Il doit permettre aux parties de procéder à l'échange des prisonniers et des corps des victimes. Selon les médias russes, le calme semble être revenu à Stepanakert, la capitale du Nagorno-Karabakh. Pour la première fois depuis plusieurs jours, le son des sirènes n'a pas retenti et aucun obus n'est tombé sur la ville durant la nuit. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Et les affrontements des deux dernières semaines auront coûté la vie à au moins 400 personnes, dont une cinquantaine de civils. Des zones d'ombre autour de la libération de Sophie Petronin, l'ex-otage française de retour au pays hier après 4 ans aux mains de djihadistes au Mali. On ne connaît pas les circonstances exactes de sa remise en liberté, ni le rôle qu'a joué Paris. Elle a été libérée en même temps que l'opposant malien Soumaïla Cissé et deux autres ressortissants italiens, mais aussi après la libération par Bamako de plusieurs djihadistes. Et puis Sophie Petronin elle-même a aussi informé les autorités françaises de la mort d'une autre otage, une Suissesse, tuée par ses ravisseurs. Information confirmée hier soir par la diplomatie helvétique, mais dont on ne sait pas si elle est liée aux efforts entrepris pour libérer Sophie Petronin. À Genève, Jérémy Lange.
Les autorités suisses n'ont pas communiqué le nom de l'otage qui aurait été tué, mais selon toute vraisemblance, il s'agit d'une missionnaire d'une quarantaine d'années, originaire de Bâle. Elle a été enlevée il y a 4 ans à Tombouctou par un groupe lié à Al-Qaïda. Elle avait déjà été enlevée brièvement en 2012, lorsque la ville était tombée aux mains des djihadistes. Elle était apparue dans une vidéo de ses ravisseurs en 2017, visiblement affaiblie et amaigrie. C'est Sophie Petronin qui a informé les autorités françaises de son décès. Il remonterait à un mois. Le chef de la diplomatie suisse, Ignacio Cassis, condamne un acte cruel et exprime ses plus sincères condoléances aux proches de la victime. La Suisse cherche maintenant à connaître les circonstances exactes du décès de sa ressortissante, ainsi que le lieu où se trouve son corps. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
L'actualité, c'est aussi la situation sanitaire qui continue de se détériorer en France.
À en croire en tout cas les chiffres records d'hier soir publiés par Santé publique France, plus de 20 000 nouveaux cas de Covid diagnostiqués en 24 heures. 4 nouvelles métropoles passent en zone d'alerte maximale aujourd'hui, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble et Lille. La pression s'accentue à l'approche des vacances de la Toussaint, s'agissant notamment des tests, il faut aller vite. Et hier soir, la Haute Autorité de Santé a publié un avis favorable sur la stratégie de déploiement du test antigénique. Ce troisième type de test est moins fiable que le PCR, mais bien plus rapide. Il donne un résultat en une vingtaine de minutes, ce qui pourrait rendre de grands services, notamment dans certains cas sur lesquels la Haute Autorité de Santé s'est penchée, Véronique Julia.
Première situation dans le cas de patients symptomatiques. Quand il n'est pas possible d'obtenir un test PCR dans les 48 heures, on peut utiliser un test antigénique. Il devra être réalisé dans les 4 jours suivant l'apparition des symptômes. Si le résultat est négatif, deux cas de figure. Pour une personne qui n'est pas à risque, jeune, en bonne santé, on pourra se contenter de ce résultat. En revanche, si la personne est âgée ou qu'elle présente des facteurs de risque, il faudra confirmer le résultat par un test PCR. Le test rapide est en effet moins fiable. On ne peut pas se permettre de passer à côté d'une contamination sur des personnes fragiles susceptibles de développer une forme grave. Deuxième situation, le dépistage ciblé. La Haute Autorité de Santé recommande les tests antigéniques pour des opérations à grande échelle au sein de populations spécifiques, universités, abattoirs. Ça permettra, vu la rapidité du résultat, de casser très vite des chaînes de transmission dans des collectivités où le virus est susceptible de circuler sans symptômes apparents. C'est ce qui vient d'être fait fin septembre à la Faculté de Santé de Paris-Créteil. Plus de 400 personnes ont été testées, personnel et étudiants, avec des résultats plutôt rassurants, 4 positifs seulement, dont 3 avec une faible charge virale.
Voilà, des opérations à grande échelle qu'évoquait Véronique Julia. Hier, la préfète du Grand Est annonçait le lancement d'une campagne de 400 000 tests antigéniques, principalement destinés aux étudiants. À l'approche des vacances de la Toussaint, on le rappelle, le 24 octobre prochain.
La politique, Raphaël, avec une fin de semaine tendue au parti Les Républicains.
Après le renoncement définitif de François Baroin pour la présidentielle 2022, la droite semble très divisée sur l'identité du futur candidat et surtout son mode de désignation, Élodie Forêt.
C'était jusqu'ici une bataille larvée, mais le renoncement de François Baroin a cette semaine ouvert les hostilités. Le sénateur Bruno Retailleau frappe le premier, accusant la direction de saboter l'éventualité d'une primaire. Raison de son courroux, la création d'un groupe de travail sur le sujet décidé en comité stratégique début septembre a finalement été abandonnée au comité suivant. La direction voulait faire croire que ça n'avait jamais été acté, raconte un participant. Direction qui, en la personne d'Aurélien Pradier, le secrétaire général, attaque à son tour, rejetant la ligne conservatrice de Bruno Retailleau dans Valeurs Actuelles jeudi matin. Si la grande famille gaulliste à laquelle j'appartiens devient un Tea Party à 10%, je me casse et rachète un club de surf sur la côte basque. Ambiance tendue donc ce même jeudi lors du séminaire des parlementaires LR, à coups de passe d'armes entre pro et anti-primaire. Un coup de chaud un peu matamoresque, dénonce la députée Annie Genevard. Attendons les régionales pour décider, prie-t-elle. Avis partagé par l'ancien président par intérim Jean Leonetti. Je leur cite souvent le joueur d'échecs de Stefan Zweig. À force de jouer le coup d'après, on finit par perdre.
Élodie Forêt.
En tennis, c'est un grand classique chez les hommes. En finale de Roland-Garros, ce sera dimanche.
Nadal Djokovic, soit l'affiche la plus prolifique de l'histoire du tennis. Ce sera la 56e confrontation entre les deux hommes. Raphaël Nadal a été rejoint hier soir par le Serbe Novak Djokovic, difficile vainqueur du Grec Tsitsipas en 5 manches. Novak Djokovic qui va donc tenter de décrocher un deuxième Roland-Garros dimanche.
That would be an icing on the cake. Ce pourrait être la cerise sur le gâteau. J'espère que je pourrai en tout cas déployer mon meilleur tennis parce que c'est ça dont j'aurai besoin pour avoir une chance d'être couronné. Je suis en mesure d'y parvenir. Nous sommes au dernier match de ce tournoi contre mon plus grand concurrent. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation. Je sais ce qui doit être accompli. Je dois me préparer. Je m'en réjouis d'avance.
Voilà, Novak Djokovic à la sortie de sa demi-finale hier soir. Aujourd'hui, place à la finale dames. L'américaine Sofia Kenin affronte la polonaise Iga Świątek. Premier coup de raquette à 15h tout à l'heure sur le court Philippe Châtrier.
Et dimanche, si Nadal devait remporter Roland-Garros, ce serait son 13e trophée, 13e victoire à Roland-Garros. C'était le journal de Raphaël Delvolvé.